Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour, l'inflation, sans doute le pic est atteint. On est tombé à 5,1% en rythme annuel d'inflation au mois de mai, nous dit l'INSEE, contre 5,9%. Mais, ce sont bien encore les prix alimentaires qui sont le moteur de l'inflation. Certes, on recule de 15% en avril à 14,1%, mais 14,1%, ça reste colossal. Une famille moyenne, comparé à début 2021, dépense 200 euros de plus par mois pour son panier de biens essentiels. Et puis quand on parle de l'inflation, on se pose forcément la question de savoir si la Banque Centrale Européenne doit faire pause, puisque l'inflation montre des signes de décélération. On dira aussi un mot de la menace de Bruno Le Maire de taxer les producteurs s'ils ne rouvrent pas des négociations avec les distributeurs. Je vous poserai cette question après les polémiques suscitées par la Palme d'Or à Cannes. Est-ce que la France est un pays libéral, ultra-libéral, néolibéral ? Et puis on réagira à la décision du groupe Le Duf de renoncer à la Bretagne pour implanter son usine Bridor après 6 ans de procédure. En France, c'est un peu industrie, je t'aime moi non plus. On veut de l'industrie, mais on ne veut pas les contraintes qui vont avec la réouverture d'usines. Enfin, c'est demain que Standard & Poor's donnera son avis sur la dette de la France. Faut-il redouter une dégradation de notre dette souveraine par probablement la plus puissante des agences de notation. Bonjour Roland Gillet.
Bonjour.
Bienvenue, professeur d'économie financière à Paris-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez conseillé pas mal d'autorités publiques et privées. Je vous demanderai d'ailleurs votre avis sur le phénomène d'indexation des salaires sur l'inflation, car la Belgique est un exemple où il y a une automaticité. Les salaires suivent mécaniquement l'inflation. Comme ça fait quelques mois, on peut tirer un bilan. Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission. Vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, aux collections Alpha. J'ai plein d'auditeurs qui se demandent si vous êtes devenu républicain depuis qu'on a vu votre nom dans un shadow cabinet piloté par Éric Ciotti. C'était un papier du Figaro qui avait publié ça.
Absolument.
Qu'est-ce que les gens qui se posent des questions doivent retirer comme conclusion ?
Je suis un universitaire libre d'esprit et par ailleurs, j'ai accepté la proposition d'aider les républicains à réfléchir à un programme économique et social pour le redressement du pays. Voilà, il y a beaucoup de... Vous savez que 90% des universitaires aident plutôt le Parti Socialiste ou d'autres partis de gauche. Donc, en s'affichant ou pas, là, donc, effectivement, j'aide les Républicains.
Il est très fréquent de voir, effectivement, des universitaires intervenir aux côtés des hommes politiques pour élaborer les propositions, notamment économiques. Quelquefois, d'ailleurs, certains ont considérablement changé d'avis par rapport à l'époque où ils avaient décidé d'intervenir auprès de tel ou tel candidat. Et j'en reçois ici qui n'ont plus exactement les mêmes postures que celles qu'ils ont pu avoir par le passé. Xavier Tabo, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur principal de l'OFCE. Ça y est, le pic d'inflation est atteint, Xavier.
C'est exact.
Hein, on est d'accord là-dessus. Il n'y a plus de discussion.
Il n'y a plus de discussion.
C'est certain, si Xavier.
L'inflation, d'abord, on est là pour discuter, premièrement, Nicolas. Donc, si on commence par il n'y a plus de discussion, vont être déçus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est quand même sur un sujet où il faut toujours faire preuve d'un tout petit peu d'humilité.
Je crois, oui. C'est comme les prix du pétrole.
Il se passe beaucoup de choses, il peut se passer beaucoup de choses. Le conflit avec la Russie est loin d'être terminé. Et donc, il peut se passer énormément de choses imprévues. Après, si on regarde effectivement la dynamique des prix et puis toutes les inerties qui existent dans cette dynamique et inerties qui sont liées au fait qu'il y a des chaînes de valeur avec tout un ensemble de contrats, de stocks, de répercussions en cascade qui font que ça s'étale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement depuis maintenant plusieurs mois une baisse très significative des prix de l'énergie.
C'est 2% en rythme annuel, là. Les prix de l'énergie, dans l'indice.
Dans l'indice des prix.
L'indice des prix à la consommation de l'INSEE qui a été
à la consommation.
L'énergie ne connaît une inflation que de 2%.
Alors que qu'elle de 2%,
a connu une inflation à 28%.
Et attend même, pour certains produits énergétiques, des baisses de prix.
Oui, oui.
Alors, il y a là aussi de l'inertie. Par exemple, les prix du gaz, ben, ils ont été, il y a eu une manipulation, disons, enfin, ou en tout cas, une augmentation raisonnée sur le tarif régulé qui induit que les prix à la consommation pour, par exemple, les prix du gaz sont à peu près programmés pour l'année 2023. Et donc, qu'il n'y aura pas de baisse de prix de ce côté-là, mais il y a quand même des baisses de prix de l'énergie pour certains industriels qui vont pouvoir retransmettre ça dans leurs produits, par exemple la logistique ou tous les gens qui utilisent de l'énergie pour refroidir.
C'est bien l'objectif de Bruno Le Maire, qui voudrait que les prix des industriels reculent dans la mesure où le coût des intrants a considérablement baissé.
Exactement.
Prix
de l'énergie. Il y a aussi des baisses très nettes dans certains produits alimentaires, en particulier les céréales, et plutôt les produits alimentaires végétaux. Il y a toujours des hausses sur le côté protéines animales. Donc là, il ne faut pas attendre de miracle dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Mais il va quand même y avoir aussi un petit impact malgré tout, parce que la baisse du prix des céréales, ça va se transmettre dans des produits qui ont beaucoup augmenté, les pâtes, le riz, etc.
Le pain. Voilà.
Le pain. Donc oui, c'est de ce point de vue-là les facteurs qui poussaient l'inflation à la hausse, qui étaient la hausse des prix alimentaires et énergétiques, se sont largement atténués depuis plusieurs mois de façon aujourd'hui persistante. Et donc oui, on peut dire que de ce point de vue-là, on a passé le pic de l'inflation et ça se voit dans les prix à la consommation.
Roland Gillet, votre lecture de ce chiffre de l'inflation, alors vous pouvez l'élargir, mais dans tous les pays d'Europe en fait, on constate la même chose. Et alors attention, inflation qui ralentit ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire qu'ils augmentent moins vite.
Tout à fait.
Toujours le rappeler. Parce que là, il y a eu des engagements politiques sur des baisses de prix visibles au mois de septembre. C'est dangereux de prendre ce type d'engagement.
Nicolas, juste un tout petit point. C'est pas tellement que les prix ralentissent. C'est surtout que au dernier mois de mesure, au mois de mai, on constate en France, en tout cas, une stabilité des prix.
Oui.
Donc, ce qui est quand même mieux que des prix qui augmentent moins vite. Alors après, on a les hausses passées des 12 derniers mois qui font que le glissement, lui, continue d'être positif. Mais sur le dernier mois, on a quand même cette excellente nouvelle qui est la stabilité des prix.
Oui, allez-y, Roland Gillet, et puis je demanderai à Christian Saint-Etienne comment il voit la stratégie de menace fiscale de Bruno Le Maire.
Mais d'abord, sur les prix, d'un pays à l'autre, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on voit quand même...
Oui, mais les tendances globales...
Oui, exactement, on est dans la même logique. Un pays quand même comme la Belgique, qui lui a une indexation complète, et je répète, une indexation complète non pas des salaires jusqu'à un certain niveau, mais de tous les salaires pour la totalité de l'inflation. Vous avez eu une augmentation l'année dernière de 11,6% de tous les salaires. Là, vous avez un effet d'inflation de second type, c'est-à-dire que les prix n'augmentent pas nécessairement parce que les inputs qui rentrent montent, mais parce que les entreprises qui ont payé une telle augmentation se disent que les gens qui les ont reçus ont du pouvoir d'achat pour pouvoir payer.
Vous me décrivez donc le phénomène d'indexation des salaires automatiques.
C'est-à-dire que si c'est 3-4% et qu'on l'avait éventuellement capé jusqu'à des revenus d'un certain niveau pour compenser justement le pouvoir d'achat où ça fait très mal. Mais quand c'est pour tout le monde, vous avez ces effets. Et alors, vous êtes dans une logique qui pourrait devenir une vraiment très mauvaise évolution prix-salaire où l'un entraîne l'autre et puis l'autre a un effet encore de troisième tour.
Vous l'avez observé en Belgique, ce phénomène de second tour ou pas encore.
Mais regardez, un phénomène, par exemple, si on prend le prix des œufs, qui est quand même pas... Je veux bien que la productivité des poules françaises doit être nécessairement meilleure, mais je n'en suis pas certain. Et donc, je vois quand même que l'augmentation des prix est de 15% en France et dans pas mal de pays. En Belgique, c'est 30%. Donc,
30%.
Il y a cette idée quand même que on peut se permettre, et puis surtout ça fait mal aux entreprises, donc c'est pas seulement elles veulent se permettre, les marges après une augmentation, surtout celles qui utilisent beaucoup de travail, avec une augmentation de 11,6% pour tout le monde, depuis le PDG jusqu'au travailleur, je vais dire le moins qualifié, ça fait effectivement mal, et donc elles essayent de répercuter au maximum. Donc vous avez ces effets qui jouent. Et vous avez un autre pays comme l'Espagne, Madrid, où là ils ont fait plus ou moins la moitié du chemin, mais uniquement pour les bas salaires surtout, vous voyez que ces effets sont nettement moins forts pour ce qui est du deuxième tour.
Donc en fait, vous décrivez parfaitement ce qui se produit s'il y avait une indexation des salaires sur l'inflation, ce qui a été souhaité à l'occasion de ce retour de l'inflation, qui était devenu le fantôme de l'économie. On a eu tout récemment une grande tribune d'Henri Guénaud dans le Figaro pour nous expliquer tout le bien qu'il pensait du retour de l'indexation
des salaires. Mais juste une dernière phrase, l'idée de départ me paraît tout à fait, et en Belgique je trouve que...
Mais l'idée de départ, on la conçoit très
bien. Oui, mais c'est l'effet quand on le donne à tout le monde. Et là, on effectivement, et je parle même pas de la compétitivité des entreprises, parce qu'il faut voir les effets courts sur l'inflation et puis les effets à long terme sur la compétitivité des entreprises belges. Beaucoup d'entreprises pour le moment savent qu'elles vont avoir un fort désavantage compétitif qui va avoir lieu les prochaines années.
La SNCF a annoncé d'ailleurs qu'elle n'accorderait pas de nouvelles hausses de salaire après 12% d'augmentation en l'espace de 2 ans, mais qu'il y aurait des quantités de gestes susceptible d'améliorer le pouvoir d'achat des cheminots. Il n'y a pas de débat là sur l'histoire de l'indexation des salaires sur l'inflation, où certains considèrent que ça devrait être remis comme un sujet méritant.
Sur ce point,
Christian Saint-Étienne,
il faut se souvenir qu'à l'automne 2021, on a eu un débat sur ces antennes et dans la profession des économistes sur la question de la boucle prix-salaire.
Oui. On a donc énormément
à ce moment-là, bon, moi parmi d'autres, j'avais pris position pour des réponses ciblées afin d'éviter le retour de la boucle prix-salaire qui est catastrophique quand vous êtes dans un système de change fixe, puisque nous sommes en change fixe à l'intérieur de la zone euro. Donc c'est ce que le gouvernement français a fait, c'est pas parce que je l'ai dit, mais il y avait un accord général sur ce point. Donc, il y a eu des aides pour compenser l'augmentation des prix de l'énergie et l'augmentation des prix des céréales aussi à l'époque. Donc, il y a eu des aides spécifiques qui ont été versées. A posteriori, je continue de penser que c'était la bonne approche. Alors, néanmoins, c'était la bonne approche à court terme. Il faut se poser la question sur le long terme. C'est-à-dire, l'idée de départ, il y a... un peu moins de deux ans, c'était que ces hausses étaient transitoires. Donc,
c'était la grande idée de départ, oui.
Voilà, mais c'est très important de le rappeler. Et donc, face à des hausses qu'on pouvait penser transitoires il y a 20 mois, c'était tout à fait adapté de faire des aides spécifiques plutôt que d'enclencher la boucle.
On n'allait pas ancrer des hausses de salaire sur une inflation qui était de très courte durée. C'était
après, ce qui est advenu, c'est bien sûr la guerre en Ukraine qui a changé la donne sur le plan structurel. C'est-à-dire que on peut penser que ça va avoir des effets de moyen long terme compte tenu des sanctions qui ont été prises contre la Russie sur ses exportations de gaz qui jouent un rôle clé dans la formation des prix industriels en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Donc à ce moment-là, il y a eu des interrogations d'ailleurs, et c'est là où on a commencé à avoir des augmentations de salaires, d'autant plus qu'en France, on n'a pas de boucle prix-salaire, et on s'est battu sur ça, mais il y a une indexation du SMIC.
Du salaire minimum.
Donc,
il y a un petit effet d'entraînement sur les salaires les plus proches.
Voilà. Et contrairement à la Belgique, en revanche, les salaires au-dessus de 3 fois le SMIC n'ont pas du tout suivi. Alors, il faut se rappeler que... dans une analyse structurelle, la formation des prix pour un pays comme la France qui est terriblement désindustrialisé, c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, c'est une question stratégique. C'est-à-dire que est-ce que ça peut servir d'élément de réindustrialisation? De facto, on a eu une hausse de prix depuis 18 mois qui est inférieure à celle de la Belgique et de l'Allemagne. Donc ça peut donner un petit élément de compétitivité aux entreprises, sous réserve qu'on ait une politique sur l'énergie qui soit cohérente, parce que un des inputs clés pour l'industrie, c'est bien sûr les prix de l'énergie. Donc vous voyez que ce que je voulais dire, c'est que c'est une question extrêmement complexe. On a bien réagi, je pense, il y a 18 mois, 20 mois. Il fallait mettre en place une politique de compensation ciblée. Ensuite, le SMIC, au fond, paradoxalement, l'indexation du SMIC a permis d'éviter une explosion de la cocotte minute sur le plan du marché du travail. Maintenant, on est bien content qu'il y ait un ralentissement de l'inflation. Alors, ce que je crains, et je termine par là, c'est que on n'a pas. C'est la politique de l'OPEP. Puisque l'OPEP a goûté à la manipulation des prix du pétrole en jouant sur les quantités produites.
Ils annoncent qu'ils vont baisser la production encore.
Donc s'ils baissent la production, on pourrait avoir une moindre réduction de l'inflation que ce que nous espérons.
Quelqu'un voulait dire quelque chose?
Juste un point sur l'exemple.
Faites des réponses un peu plus courtes, oui, s'il vous plaît, parce que là...
Juste sur le plan du pétrole, je veux dire qu'on s'est tellement bien organisé en Europe pour leur montrer à quel point, contrairement à ce que vous voulez bien dire, parce qu'on produit de l'électricité encore en moyenne avec 80% de carboné, on leur a tellement bien montré à quel point on s'était trompé ou on n'avait pas voulu dire la vérité sur notre dépendance au pétrole en disant, vous savez, vous allez pouvoir le garder, je parle avant la crise en Ukraine, on n'en aura plus besoin, on leur a montré à quel point on en était dépendant, on ne peut pas leur en vouloir maintenant de dire, attention,
production égale si jamais il y a un léger ralentissement d'activité, les prix vont baisser, sauf si nous, on se permet aussi de baisser ce qu'on a encore de rare, c'est-à-dire notre matière première.
Ce qui est assez frappant, c'est que les dernières décisions de l'OPEP pour baisser la production n'ont pas eu tant d'effet que ça sur le prix du baril, parce qu'il y a quand même toute la production et l'exportation venant des États-Unis qui fait que la toute-puissance de l'OPEP.
Et il y a un élément aussi qui nous arrange bien, c'est l'évolution du dollar. Parce que clairement, on a été aidé par le dollar. Maintenant, ça va un peu moins bien. Faut voir aussi les choses. Le dollar remonte un petit peu, mais les deux effets nous ont bien arrangés sur le volet inflation, sur les produits carbonés.
Xavier Tabot, comment vous réagissez à la position de Bruno Le Maire qui veut tordre le bras des distributeurs sur l'inflation? Il leur dit, vous reprenez des négociations, vous avez les prix de l'énergie qui ont baissé, les prix des matières premières qui ont baissé, des prix sortis d'usine, des coûts de production qui ont baissé, faut les répercuter sur les prix au détail pour les particuliers, pour les consommateurs. Vous reprenez des discussions, sinon je taxe. Moi, je pense que la taxe n'est pas possible.
Alors, deux choses. Bon, d'abord, Bruno Le Maire est plutôt dans son rôle qui est quand même de montrer ou d'essayer de montrer que le gouvernement fait des choses sur un sujet qui préoccupe énormément les Français et que, par ailleurs, il utilise une vieille astuce qui est de désigner un coupable. Dans une situation où il n'y a pas forcément de coupable et qui est complexe.
Là, on parle de 70 multinationales.
Mais c'est toujours bien d'avoir un coupable pour se dire, si ça ne va pas aussi bien que ce que ça pourrait aller, c'est à cause de eux. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un petit fond de vérité, parce que la structure des contrats, des approvisionnements, fait qu'il y a une inertie dans les prix. Alors, évidemment, quand les prix montent, celui qui est en bout de chaîne n'est pas très avantagé par les contrats. Il est plutôt avantagé par les contrats quand il est en bout de chaîne, donc le consommateur, parce que les prix sont plutôt stables et que c'est ceux qui sont en début de chaîne qui prennent les conséquences des prix, des inputs qui augmentent. Mais par contre, quand les prix finissent par se calmer, c'est le contraire. Donc c'est celui qui est en début de chaîne.
Mais on a toujours tendance à dire que généralement ça monte par l'ascenseur et ça descend par l'escalier.
Oui, c'est un peu ça.
Donc on désigne des coupables. Enfin, c'est très clair. Là, les coupables sont parfois.
Il y a quand même cet effet de dynamique qui lui est réel et donc on peut vouloir inciter celui qui est en bout de chaîne à abandonner un petit peu de son avantage lié au contrat qu'il a. Et là, faire des menaces, ça peut aider. C'est pas forcément... il y a le problème de crédibilité de la menace, de sa mise en œuvre, de ses délais de mise en œuvre. Je vous rappelle qu'on vit quand même dans un état de droit, donc c'est quand même compliqué de faire des choses qui sont purement autoritaires, et donc on est quand même obligé de respecter un cadre.
Xavier, on peut pas aller taxer 70 entreprises.
Non,
il faudrait taxer toute une filière. Donc, il faudrait déterminer au-delà de quel chiffre d'affaires...
On peut quand même faire peur à une filière en lui disant, même si on va pas le faire tout de suite... on va mettre en place des outils qui un jour finiront par vous tomber dessus et vous croyez pas à notre menace mais nous on est tenaces et on finira par y arriver. Je suis pas sûr que ça soit très efficace. Non. C'est de très bonnes guerres dans la situation où on est. Ça permet aussi de faire un peu patienter tout le monde en disant ça va arriver et c'est bloqué par les coupables qu'on a désignés.
Enfin, c'est une vraie question, juste en une seconde, parce que le prix de la baguette de tradition à Paris est passé de 1,20 à 1,40 au moment de la hausse du prix du blé.
Ça s'est vu parfois, oui.
Pourquoi elle ne redescend pas à 1,30 au minimum?
On a rarement vu le pain redescendre.
Il
y a des prix qu'ils ont atteints.
Le prix du blé monte et il ne redescend pas quand le prix du blé baisse. Donc
il y a des prix qui atteignent effectivement des...
Alors, le boulanger vous dira, le prix du blé est monté, on n'a pas mis tout le prix du blé dans la baguette.
Ouais, mais enfin.
Et donc on a fait moins de bénéfices, voire des pertes. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr que le prix du blé va redescendre de façon durable. Et donc oui, on baisse pas notre prix de baguette parce qu'on n'a pas envie de le remonter ensuite. Et de toute façon, on a des marges.
Prix de baguette baissée.
Oui, mais vous avez cet effet dissymétrique même sur les salaires. Hein, je veux dire, c'est ça aussi.
Quand vous ancrez une hausse de salaire,
ça monte, elle reste.
Si
un jour ça ralentit. Donc clairement, il faut bien savoir ce qu'on fait. Et comme vous l'avez très bien rappelé, par rapport à la compétitivité d'un pays, le nôtre, je suis au moins d'accord de reconnaître qu'il est beaucoup plus petit que le vôtre. Il est fort ouvert. On est un des meilleurs exportateurs, j'entends, vraiment, par rapport au PIB. Se mettre soi-même avec 11,6% de hausse de salaire Sur la totalité de la masse salariale, c'est sûr que pour certaines entreprises, ça fait déjà mal tout de suite, hein, ça c'est clair. Parce que ceux-là ne peuvent pas répercuter sur le pouvoir d'achat des gens uniquement en Belgique. Ceux qui sont en autarcie peut-être, mais les autres allaient dire, moi j'ai 11,6, je vais les répercuter pour une vente en France ou en Allemagne ou en Espagne, ça n'ira certainement pas.
Ah, non,
sauf à être plus concurrentiel.
Il y a des endroits, il y a des seuils psychologiques qu'on ne peut pas dépasser. On a 1 minute 30 avant de marquer une pause. Considérez-vous, compte tenu de ce qu'on a dit sur l'inflation, qu'il est temps pour la Banque Centrale Européenne de faire une pause? Roland Gillet.
Ah, personnellement.
Beaucoup considèrent que s'il est grand temps de faire une pause, car on a à peine commencé à voir les effets de la plus forte hausse de taux de l'histoire de la BCE.
Mais le tout est quand même de savoir avec quoi on se retrouve aujourd'hui. Avant, on avait une inflation très faible, ou en tous les cas 1,5%, et des taux d'intérêt négatifs.
Oui.
Donc on avait un écart, allez, faisons simple, moins 1,5% sur l'Allemagne de taux d'intérêt, 1%. Donc ça fait 2,5% d'écart avant de commencer à compenser l'inflation. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5-6, hein, on va dire, de core inflation, ou d'inflation, je vais dire, qui est vraiment celle qui ne vient pas de l'énergie.
L'inflation sous-jacente.
Voilà, et on se retrouve avec 2,5% de... Ah bon, on a un écart encore plus grand. Donc pour le moment, sur le différentiel, on n'y est pas sur les taux longs, certainement pas. Et donc clairement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'inflation anticipée qui est le plus important par l'inflation constatée actuellement. Donc clairement, je comprends Christine Lagarde, comme je comprends aussi la politique américaine, mais c'est un peu différente parce que les coûts liés à l'énergie notamment ne sont pas du tout les mêmes, et l'implication que ça a, et la productivité, et le haut de cycle où sont les Américains par rapport au nôtre. Mais tant qu'on n'aura pas, pour que la Banque Centrale reste crédible, avoir circonscrit le problème de l'inflation par rapport au taux réel auquel on se retrouve, ça va être très difficile de vente, on est crédible, parce qu'on anticipe un ralentissement qu'on ne veut pas voir, et qu'on veut encore que la Banque Centrale joue le rôle que les États voudraient lui
faire. On va réagir à ça dans un instant, on marque une pause, et puis j'évoquerai le fait de savoir si la France est un pays libéral. Moi j'ai eu un avis très très précis là-dessus, et vous avez bien vu la polémique qui a suivi la remise de la Palme d'Or à Cannes. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Il publie le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial, dans la collection Alpha. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Ça va être compliqué, nous disait Roland Gillet, pour la BCE de ne pas suivre finalement son mandat et la question des anticipations d'inflation. Dans mon esprit, les anticipations d'inflation, Roland, elles étaient plutôt contenu encore aujourd'hui.
Mais le problème, c'est ce que je vous dis, malgré ça, pour le moment, on a de la chance. Je parle pour les contribuables sur le coût des dettes publiques. C'est que pour le moment, on a quand même des investisseurs très sympathiques. Hein. Comment est-ce que vous voulez que j'explique à un étudiant que quelqu'un est sûr de perdre de l'argent quand les taux d'intérêt sont négatifs? Il est tout aussi sûr pour le moment, étant donné l'inflation et ce qu'il a comme rémunération, qui s'appauvrit également. Donc, si c'est de la rationalité, elle est imposée. Alors, un impôt, on est obligé de le payer. Ici, on n'est pas obligé de dire à tout le monde, écoutez, rendez-vous compte pour le moment que c'est probablement moins pire en termes de volatilité de détenir des obligations. Et encore, l'année dernière, on a vu qu'elles pouvaient perdre autant que les actions, en moyenne. Mais de l'autre côté, on est aussi tous d'accord de dire, à partir du moment où je m'investis dans quelque chose où je suis déjà en train de perdre en pouvoir d'achat, c'est pas très malin non plus. Donc, si demain, des gens, les investisseurs se disaient, tiens, réveillons-nous un petit peu, tant que je n'ai pas au moins une compensation pour l'inflation, je ne veux plus d'obligations d'État dans mon portefeuille, je pense qu'il se passerait des choses beaucoup moins agréables pour le financement des États.
Il y a évidemment, mais il y a des quantités d'investisseurs et de gros qui ont l'obligation de détenir une certaine quantité d'obligations d'État.
Non, mais oui, mais c'est pas... Enfin, il y a quand même une forme de rationalité, parce que ce qui compte, c'est quand même les anticipations d'inflation.
Oui.
La perte sur les obligations d'État, en termes réels, elle serait avérée si l'inflation restait à 5 ou 6% jusqu'à la fin de la maturité de l'obligation. C'est-à-dire 10 ans, 20 ans, 30 ans pour certaines obligations. Or là, il y a un certain nombre d'investisseurs qui anticipent que cette inflation va être plutôt faible, retourner à 2% dans les, disons, 2 années qui viennent. Et à ce moment-là, ils ne perdent pas d'argent dans ce cas-là.
C'est la seule chose dont on est au moins certain, c'est si on ne se trompe pas sur l'anticipation d'inflation qui est faite par le taux d'intérêt. Or, aujourd'hui, on sait que si les taux sont si bas, c'est le Baxter européen européen qui a été mis en place, le quantitative easing, et le fait que pendant la crise, malgré...
Mais les investisseurs restent libres aujourd'hui de prendre des obligations. Ils ne sont pas forcés.
Non.
Donc, OK, ils ne peuvent pas négocier le prix parce qu'il y a le quantitative easing, mais ils acceptent et ils continuent à acheter de la dette publique,
oui, tout à fait.
Au-delà des obligations réglementaires qu'ils ont, qui ne sont pas si contraignantes que ça. Donc,
dette publique fait encore envie.
Oui, mais il y a quand même une rationalité derrière ça, qui est ces anticipations d'inflation. On peut pas dire aujourd'hui, un investisseur, il achète de la dette publique, il perd de l'argent. C'est pas vrai.
Non, j'ai dit avant, quand les taux d'intérêt négatifs, là, vous êtes certain si vous
n'avez pas l'échéance. Bon, OK. Voilà. Après, moi, je pense que la Banque Centrale Européenne, elle va devoir quand même un peu reconsidérer sa position. Une inflation qui ralentit et des économies qui ne sont pas en surchauffe de l'autre côté, la situation européenne est très différente de la situation américaine. Le taux de chômage n'est pas à 3%, la croissance, elle est à tonnes, on va dire.
Pas à 2,5.
Elle n'est pas à 2,5, elle est pratiquement à zéro pour la zone euro. C'est difficile de dire dans ce contexte-là, inflation qui ralentit, croissance faible et marché du travail à tonnes. C'est difficile de dire, je continue ma politique monétaire parce que j'ai peur d'inflation de second tour.
On avait le gouverneur de la Banque des Pays-Bas qui disait récemment qu'il y avait encore deux hausses de taux, que c'était terminé. Voilà. Sous-entendu, on va arriver à 3,75.
Mais c'est ce que je pense.
Et on les garde comme ça pendant un an ou deux. Et, oui, Christian Saint-Étienne là-dessus.
Techniquement, sur ce point, le raisonnement de Roland a été impeccable, sous réserve de l'anticipation d'inflation sur le moyen terme. Ce que je crains, c'est qu'il y ait des... Alors, les investisseurs sont peut-être rationnels si les anticipations d'inflation sont bien orientées, mais je crains qu'il y ait une petite pointe d'irrationalité dans le comportement de la Banque centrale. Parce que, ici comme d'autres, mais même sur cette antenne, il y a 3 ans, je disais que la Banque centrale avait tort de garder les taux si bas aussi longtemps.
Beaucoup l'ont dit.
Ce que je pense, c'est que pour se rattraper, elle les remonte trop vite. Donc il se peut qu'il y ait un petit mécanisme de ce type. Le deuxième élément qui m'inquiète le plus, c'est que sur ces sujets-là, à cause des stocks d'obligations, mais aussi à cause du marché du logement, il y a un effet stock lié à la remontée des taux qui doit être prise en compte et qui ne l'a pas été suffisamment. On l'a vu en Angleterre, où la Banque d'Angleterre a été obligée d'intervenir en urgence absolue.
Sinon, c'était les fonds de pension qui étaient au tapis.
Parce que sinon, les fonds de pension étaient insolvables. Donc, je pense que compte tenu de ce qu'a rappelé Xavier, c'est-à-dire une économie européenne à tonnes, des prix de l'immobilier qui commencent à baisser, nous devrions faire ce qui vient d'être annoncé ce matin par la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire une pause probable dans la hausse des taux américains au mois de juin. Je pense que la Banque Centrale Européenne, compte tenu des effets stock que je rappelle et du ralentissement de l'économie, devrait se donner 2 ou 3 mois pour continuer d'observer les conséquences de la très forte remontée des taux qu'elle a mise en œuvre. Alors, si à l'automne...
On n'a jamais connu une hausse des taux aussi violente.
Voilà, elle a été. Et justement, avec un effet stock considérable derrière. Donc, je pense qu'on a besoin d'une pause pour analyser les conséquences de ce qui a été fait dans les 12 derniers mois.
Sachant qu'on considère qu'il faut 12 à 18 mois pour avoir les pleins et les effets à plein des décisions de hausse de resserrement monétaire.
Plus que, vous le dites à juste titre, 12 à 18 mois de lag, de délai, bon, ça peut même monter à 24 mois, mais surtout, on n'a jamais monté les taux aussi vite avec des stocks de dettes aussi élevés. Il y a 30 ans, on n'avait pas des stocks de dettes avec cette ampleur.
Mais il a une explication, Roland Gillet, sur le fait qu'on ait des stocks de dettes aussi élevés.
Oui, et juste un point aussi, c'est pour les banques. Je dis de manière, le secteur financier, on a bien vu d'ailleurs, même s'il devrait se couvrir, même s'il y a des stress tests et ainsi de suite, des remontées très fortes comme ça sur le stock et en market.
C'est ce qu'a mis en l'air la banque SVB.
Vous me faisiez remarquer justement à propos de la dette, parce qu'on se demande pourquoi est-ce que tout quasiment est financé par la dette aujourd'hui en Europe. Les États, mais également la sphère privée. Et vous avez une explication très rationnelle.
J'essaye en tous les cas, mais ce que je comprends, c'est il y a comme un peu le théorème de Pythagore, quelque chose qu'on utilise encore partout en finance et en comptabilité, c'est le théorème de Modigliani-Miller. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais Modigliani, manifestement, il avait au moins compris une chose, c'est qu'on ne crée pas de la valeur par la structure financière, donc on sort des temps ou pas, sauf si un acteur vous y aide. Et il y a un acteur qui aide, par exemple les entreprises, à privilégier la dette. c'est le fait qu'on peut déduire fiscalement les intérêts sur cette dette. Donc l'État en prend une partie à sa charge, alors que pour la rémunération, pour les dividendes ou pour ce qui revient au fonds propre, il n'en est rien. Donc clairement, rien que ça...
Là, l'État va se servir.
Voilà. Et si vous avez la même chose pour une dépense très importante dans certains pays au niveau de l'achat des particuliers, donc des ménages, c'est le crédit immobilier quand on achète sa maison. Là aussi, dans certains pays, dont le mien, il y avait un bonus fiscal qui venait sur une prise en compte par l'État d'une déduction fiscale sur les intérêts de cette dette. Donc, quand l'État se dit, tiens, pourquoi ces gens continuent-ils à s'endetter, ben, il y a déjà le fait qu'ils réduisent mécaniquement le coût par rapport aux fonds propres. Même si ceux-là en ont peu, quand ils utilisent la dette, ça coûte moins cher. Alors, ce qui est merveilleux, ça c'est l'effet de second tour que j'ai ailleurs, c'est qu'à cause du fait que les dettes deviennent de plus importantes au niveau des États, étant donné la crise de 2008 et la suite, par le quantitative easing, on dit on doit faire baisser la dette, le coût de la dette de l'État pour qu'elle soit plus soutenable, évidemment, sachant qu'il n'y a que les intérêts de la dette qui rentrent dans le budget. La dette, elle, c'est dans le bilan, mais il n'y a pas de bilan d'État. Donc, clairement, on fait ça, et mécaniquement, tous les autres taux aussi baissent. Donc, vous avez encore la partie qui vient par le financement par dette, qui est encore moins chère. Et puis alors, je vois certains hommes politiques qui me disent « Mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils s'endettent tous comme moi ?» Ben parce que je suis l'instigateur des règles du jeu qui fait que le coût de la dette coûte moins cher. Or, je vais vous dire quelque chose qui va sûrement vous étonner. J'ai jamais vu mourir une entreprise parce qu'elle avait trop de fonds propres. Trop de dettes, oui. J'ai vu des ménages surendettés qui sont morts aussi, en Espagne notamment après une crise immobilière, parce qu'ils étaient trop endettés aussi, et à long terme. Et donc, clairement, aujourd'hui, les règles du jeu sont telles que le principal acteur parle lui-même sur sa dette. Est-ce que vous connaissez, je prends mes collègues à témoin, quelqu'un qui dit, un acteur privé, que ce soit un ménage ou une entreprise, moi, ma dette, elle est juste soutenable. Moi, j'ai jamais entendu ça, elle est bien gérée. Ici, on en est là, quoi. C'est la soutenabilité de la dette dans certains pays. Aujourd'hui, c'est même pas de dire elle est bien ou mal gérée. Donc, clairement, je pense qu'aujourd'hui, le coût de cette dette amenée par le quantitative easing pour que les dettes publiques soient soutenables a créé aussi un effet pour les acteurs privés. Vous savez, quand on voit certains qui achètent leur maison quand c'est la leur, vous prenez la publicité que vous entendez toujours à la TV ou dans les médias, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Si vous faites que ce coût-là qui vient s'ajouter à l'achat de votre maison est moindre, vous poussez les gens à avoir un taux d'endettement plus élevé. Donc je pense que c'est assez mécanique. Par contre, je ne pense pas que ce soit tout à fait anormal. Et de se poser la question de savoir maintenant comment on pousse un peu plus les gens à avoir un peu plus de fonds propres dans toutes leurs activités et les États être plus raisonnables sur certaines dépenses, on y viendra peut-être après entre investissement et dépenses sociétales, je pense que c'est vraiment essentiel.
Est-ce qu'il faut craindre Standard & Poor's, selon vous, Xavier Timbaud? C'est demain. Demain, on aura... Alors, il y a eu quelques éléments de communication de la part de Bercy en voulant donner des signes de bonne conduite pour les finances publiques 2024. Enfin bon, des signes de bonne conduite avec des petits pourcentages de coupes de dépenses. Et voilà, demain, on aura le verdict de S&P. On parlait de soutenabilité. La soutenabilité, c'est l'instant où vous n'êtes plus en capacité de rembourser ce que vous étiez en capacité de rembourser la veille.
Oui, on pourrait le définir comme ça. Mais je pense que malgré tout, la question de soutenabilité, c'est le bon concept. Si on a laissé les dettes augmenter après la crise de 2008, en fait, c'est parce qu'on a voulu qu'elles augmentent et qu'on a voulu que ce soutien à l'économie soit apporté par effectivement l'endettement. Et après, effectivement, quand on atterrit de ce genre de situation, se pose le problème que Christian évoquait, qui est que on a des stocks élevés et que du coup, manipuler l'instrument de taux doit être fait avec beaucoup de doigté. C'est pas que ça ne doit pas être fait, c'est que ça doit être fait avec beaucoup de doigté, parce que on a des effets de stock qui vont jouer énormément et qui peuvent aller jusqu'à provoquer des situations d'insoutenabilité et qui, elles, à ce moment-là, génèrent des crises qui vont demander qu'on réendette derrière et on peut ne pas sortir au bout du compte de tout ça. Alors après, est-ce que on doit craindre la dégradation de la dette par Standard & Poor's de la dette souveraine française? Bon, le risque de défaut de la dette souveraine française aujourd'hui en 2023, il est extrêmement faible. On peut dire la dette a augmenté, donc mécaniquement le risque de défaut a augmenté. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Si on compare le risque de défaut de la France aujourd'hui en 2023 par rapport à ce qu'il était en 2007, bah on peut dire dans l'intervalle, il s'est quand même créé une doctrine en Europe autour de le whatever it takes sur l'euro. La Banque centrale européenne a pris un rôle.
La BCE est là et qu'elle agira,
un rôle particulier. Et de ce point de vue-là, tout le monde semble d'accord en Europe, par ailleurs, sur cette doctrine. C'est-à-dire, personne ne la conteste, ou en tout cas, vraiment très silencieusement aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, institutionnellement, malgré le quasi-doublement de la dette publique, en fait, malgré tout ça, on peut dire, un, la dette publique française est plus soutenable, mais en fait, elle est aussi plus soutenable parce que la dette publique italienne, espagnole sont plus soutenables, que le risque d'éclatement de la zone euro est plus bas, et que du coup le scénario dans lequel un État européen ferait défaut est un scénario qui aujourd'hui devient moins probable.
Non, mais je comprends. Voilà. Vous me décrivez, donc, vous décrivez un parapluie de l'euro et une BCE assureur en dernier ressort qui fait que le pire n'est plus envisageable.
Voilà. Après, ce que va faire Standard
& Poor's, je pense que c'est la réalité en fait.
Ce que va faire Standard & Poor's, c'est qu'elle va comparer 2023 à 2022 en disant bon, 2023 par rapport à 2022, on a des taux d'intérêt un peu plus élevés, on a un peu moins de croissance, on a une situation sociale un peu dégradée. Bon, tout ça, c'est moins bien forcément. Donc, on peut pas améliorer la situation de la France.
Too big to fail. Plein de pays sont too big to fail.
Pour vérifier quand on est tous d'accord, le risque évoqué ici, c'est de passer de double A à double A moins.
Oui. C'est ce genre de choses.
Voilà.
Ça. Alors, on reste quand même à deux étoiles.
Il se trouve que, comme je suis passé par le FMI et le CDE, j'ai toujours dans ma poche le tableau des notations. Alors en fait...
vous avez toujours les notations des trois principales agences, d'accord.
Voilà, enfin le barème.
Oui.
Le barème est en fait un barème sur 20 notes. On est noté de 1 à 20. Et donc, en réalité, passer de double A à double A moins, c'est passer de 17 à 16, sachant que le tableau se divise en deux parties, 10 notes en investissement et 10 notes en spéculatif. Donc là, il s'agit de passer de 17 à 16. Alors, je pense que ce qu'a dit Xavier sur la probabilité de défaut est juste. Néanmoins, il y a un effet réel très important, c'est que si les taux, malgré tout, augmentent, et que la charge d'intérêt payée par l'État augmente dans un contexte où, par ailleurs, l'État doit réduire le déficit public, ça veut dire qu'il y aura un effet d'éviction, non pas sur le privé, mais un effet d'éviction sur la bonne dépense. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une enveloppe qui sera contrainte de dépenses publiques, si on paye plus d'intérêts, ben on aura moins d'argent pour investir sur les écoles, les routes, la réindustrialisation. Donc ça, cet effet, il m'inquiète beaucoup. Parce que récemment, la charge de la dette, c'était 2 points de PIB. Si on remonte à 3 points, historiquement, on a été à certaines périodes à 4 points de PIB, 5 points de PIB. Donc,
on a eu 5 points de PIB de charge.
Mais on était à plus de 4 en tout cas. Oui. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, il y a fortement d'inflation. Un point de PIB de plus de service de la dette dans un contexte où il y a une contrainte sur l'enveloppe de dépenses, ça va provoquer un effet d'éviction sur ce qu'on peut appeler la bonne dépense.
On n'a pas vu d'effet sur le taux à 10 ans de la France après la décision de Fitch.
Mais on peut
se dire que même s'il y avait un passage à sous surveillance négative ou ce genre de choses, même pas forcément sans un changement de note, peut-être que l'effet serait tout à fait égal à zéro.
Mais on a un avantage.
Pour clore le sujet, là.
On a juste un avantage, c'est que sur le stock de dette, il n'y a que pour la nouvelle dette émise qu'on a les effets. Les États, les dernières années, étant très contents de voir des taux d'intérêt négatifs, ont allongé la dette, la durée moyenne de la dette. Et donc, sur le stock, ça mettra un certain temps.
Ça met un certain temps à se diffuser.
Mais enfin, comme on l'a dit, il faut quand même y être attentif.
À part que maintenant, il y a des grosses attaques contre les obligations indexées sur l'inflation.
Oui, ça, c'est une imbécilité de mon point de vue.
Ah oui, mais enfin, à côté de ça, tout le monde s'en est réjoui qu'il n'y avait pas d'inflation.
Ah non, moi, il y a 5 ans, je disais que c'était une bêtise parce qu'on refaisait l'emprunt Giscard, qui était indexé sur l'or, et on a remboursé 5 fois le capital. Donc, alors là, je vais être très direct. Malheureusement, je connais bien les acteurs de ce sujet. Nous n'avons jamais eu, malheureusement, à la tête du Trésor français, des gens qui sont capables d'intégrer l'environnement économique. C'est une direction et une gestion de la dette qui est très technique. Et au moment où on a sorti les obligations indexées sur l'inflation, ça paraissait très malin. Mais ça s'est beaucoup développé dans les 10 dernières années. Ça apparaissait très malin. Et puis en plus, dans les dîners en ville à Paris, vous dites, oh bah, moi j'ai mis de l'obligation indexée sur l'inflation. Vous faites votre petit effet pendant 2 minutes. Et c'est les Français qui vont payer pendant 30 ans.
Je suis pas sûr qu'il y a un effet waouh. Quand on dit dans un dîner en ville qu'on indexe une obligation sur l'inflation.
Ça dépend des qui dîners, est dans le dîner.
Ça dépend des gens.
Pas forcément les plus rigolables.
Remarquez, il n'y a que probablement... BFM Business qu'on a un débat entre OAT, OATI, oui. Faites vos jeux. Ce n'est pas vraiment une question. Est-ce que vous voudriez que la...
Enfin, c'est une question à plusieurs milliards d'euros.
Oui. Le gros de la déformation négative de la charge de la dette en 2022, elle a été liée finalement à ce stock d'OATI qui est à peu près de 11%.
Alors, puisqu'on a la chance d'être sur BFM Business et de pouvoir parler de ça, aussi. Je suis sensible à un point qui a été évoqué par Xavier. Ça va être intéressant de voir sur 5 ans comment évoluent ces OATI, parce qu'effectivement il faudra faire l'analyse sur une durée. Peut-être que dans 3 ans on dirait que c'était pas trop catastrophique si l'inflation
oui, parce qu'on a un premium quand on fait des OATI, c'est-à-dire on paye un peu moins cher que le taux d'une obligation non indexée. Et puis là, on va payer plus cher parce que il y a eu un épisode d'inflation et donc on pourra faire le bilan pour savoir.
On pourra faire le bilan, mais
le premium qu'on a eu.
Mais enfin, le principe était quand même dangereux dès le départ.
Le
danger surtout, c'est qu'on ne sait jamais au départ combien ça va coûter puisque on est lié à une obligation à taux fixe.
On aurait posé la question en 2015, tout le monde aurait applaudi les OAT.
Ah non, moi j'ai pas.
Pas vous. Est-ce que la France est un pays libéral, Xavier Thimbault? Vous savez, il y a eu cette polémique. Alors, vous connaissez notre niveau de dépenses publiques.
En plus, c'est le bon interlocuteur.
Notre niveau de dépenses public, notre niveau de prélèvement obligatoire, l'État à peu près omniprésent dans tout ce qui se passe, dans les tarifs régulés de ceci, les tarifs régulés de cela, l'encadrement des loyers, un système d'État-providence dont l'INSEE nous a rappelé récemment à quel point il réduit les inégalités, et pourtant on entend encore ce mot de libéral.
Moi je vois ce débat tout le temps sur Twitter, à la télévision, sur les chaînes d'infos, etc., avec des arguments qui me paraissent pas toujours très très bien construits. Alors, est-ce que la France est un pays libéral au sens hayekien, avec un interventionnisme de l'État réduit et, la réponse est non. La France s'enorgueillit d'avoir un État présent et surtout un système de protection sociale qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale. Pour assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire c'était pas par folie socialiste.
Par des générales de Gaulle d'ailleurs.
Oui.
Mais
le Conseil national de la résistance.
Tout le monde était d'accord.
D'ailleurs dont l'efficacité est régulièrement saluée, elle l'a été récemment par une enquête de l'INSEE.
Et c'est pas une folie socialiste au sens, la volonté de faire advenir la société utopiste de demain. Bon, ok, ça c'est la France dans laquelle on vit et qu'on connaît. Ensuite, par rapport à ça, il ne faut pas négliger aujourd'hui qu'il y a un débat extrêmement actif sur ce système va trop loin ou ce système ne va pas assez loin.
Un débat.
Non, mais justement. Par ailleurs, il y a aussi des politiques qui sont faites soit pour renforcer ce système, soit, quand il y a des alternances politiques, pour vouloir en limiter la portée, en limiter le coût, en conditionner l'accès à des gens qui auraient la bonne nationalité ou qui auraient la bonne tête. Bon, c'est un débat qui existe. On peut dire le problème, c'est qu'il faut pas le juger en statique en disant est-ce que la France est libérale. Ça a pas de sens de dire ça. La France, elle est ce qu'elle est, et on a tout un tas d'indicateurs qui permettent de le dire objectivement. Mais après, on peut dire à quelqu'un: la politique que tu proposes ou que tu mets en œuvre est d'inspiration libérale au sens où elle vise à détricoter ce système de protection sociale français pour l'amener vers autre chose.
Le mot détricoter est toujours un...
C'est un débat dans lequel on a tendance à s'envoyer des noms d'oiseaux et à s'accuser de tout et de rien. Mais je pense qu'on peut pas répondre à... Quand cette personne accuse de néolibéralisme quelqu'un, elle est pas néolibérale parce que la France... Alors regardez, le taux de prélèvement, il est tellement élevé que ça nous garantit qu'on n'est pas néolibéral. Si un pays dans lequel vous avez un taux de prélèvement très très élevé, une protection sociale très développée, et où vous mettez Margaret Thatcher qui vous détricote tout ça, devient un pays, en tout cas, qui est soumis à des politiques néolibérales. Ça, je pense que...
Bon, Margaret Thatcher, on l'a pas eu, donc...
Non, mais dans toutes les explications historiques les analyses historiques de qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme, un des exemples, c'est Margaret Thatcher.
Oui, et Ronald Reagan,
Et Margaret Thatcher, je vous rappelle, elle a appliqué ses politiques dans un pays dans lequel l'État était omniprésent, dans lequel la protection sociale était très développée, dans lequel le pouvoir des syndicats était très grand.
Ce qui m'a frappé...
Et c'est précisément parce qu'elle voulait les démanteler qu'on a pu qualifier ces politiques de néolibérales. Donc, le point de départ ne nous dit rien de la direction dans laquelle on va.
Elle a été élue 3 fois, quand même.
Mais je juge pas.
Vous voulez dire un mot sur la hausse?
C'est très important. Allez-y.
Juste un mot.
Vous voulez qu'on parle de l'EDUF en Bretagne? Oui, on n'a pas le temps. Allez-y.
Ce débat-là, je le vois dans toutes les capitales où je suis.
Dans toutes les capitales.
Y compris à Bruxelles, y compris au Conseil européen. C'est où est-ce qu'on met la barre et comment est-ce qu'on définit l'endroit où on se trouve par rapport à la barre. C'est exactement ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, allez dire que ceci... parce qu'au départ, vous avez une connotation qui laisse croire qu'on est beaucoup dans l'assistanat, et je sais que ce n'est pas un beau mot, et que quelqu'un ne peut pas, à un moment donné, avoir une politique libérale dans un tel pays, ou en tous les cas, mener une politique qui peut le laisser croire, ça n'a juste pas de sens. Chacun a des idées qui sont plus d'un côté que de l'autre. Par contre, c'est vrai que laisser fonctionner l'économie, par rapport à la prégnance de l'État les dernières années depuis les dernières crises, c'est clair que l'État a joué un rôle hyper important. Donc on sait déjà qu'il y a plus d'État aujourd'hui, et que ce soit dans la régulation bancaire, que ce soit dans la régulation tout court, que ce soit dans l'aide à l'économie. On l'a dit tout à l'heure, et j'ai dit tout à l'heure, je partage totalement votre opinion, l'État n'est pas venu avec des sommes sur la table qui ont augmenté sa dette parce qu'il avait le plaisir de le faire. C'est les conséquences maintenant pour le détricotage qui me font plus peur, comme on l'a dit tout à l'heure.
Ça vous fait réagir ce éternel débat et débat.
Oui, mais c'est un débat fondamental.
Dans tous les pays.
Mais je ne vais pas développer parce que vous me taperiez sur les doigts, Nicolas. Mais vous avez le libéralisme, c'est deux choses. C'est le libéralisme politique et le libéralisme économique. Donc là, on parle surtout sur le libéralisme économique. La question, c'est est-ce que la France est une démocratie politique libérale au sens de la révolution des Lumières du 17e, 18e. Donc on l'est encore, sauf quand on a des débats comme ceux de l'Assemblée actuellement, ou quand il y a une disposition qui est permise par la réglementation de la Constitution, enfin, à la fois par la Constitution, l'article 49.3 ou d'autres dispositions internes au Parlement, on considère qu'il y a un coup d'État quand on applique la Constitution. Donc là, c'est un point central sur l'État de droit. Alors sur le système économique, effectivement, il y a le point de départ et l'évolution, mais en sous-jacent, il y a une question centrale qui est de savoir est-ce que le système économico-social est fondé sur une vision déterministe de l'homme ou sur une vision de libre-arbitre. Donc, si c'est déterministe, ben, on verse un revenu minimum à tout le monde, parce que ça permet à tout le monde de vivre du seul fait qu'il soit né. En revanche, si vous êtes dans une vision où l'individu a une part de responsabilité très importante dans ses actions et dans ce qu'il est, à ce moment-là, vous avez une vision différente. Or, de ce point de vue, quand vous analysez l'évolution générale du système économico-social français, que la droite ou la gauche gouverne, ça ne change rien, c'est plutôt une vision déterministe qu'on a. Alors, il y a la seule exception, ça serait le conditionnement de certaines aides sociales, mais autrement, mais c'est d'ailleurs conditionné sur le revenu et pas d'autres facteurs jusqu'ici. Donc, la France n'est pas, sur le plan économico-social, un pays libéral. On a un système politique de démocratie libérale, mais l'application économico-sociale n'est pas libérale. Donc, et puis, quand même, pour finir sur le cinéma qui est porté massivement par l'argent public, se plaindre qu'on est dans un système néolibéral.
Mais je pense pas qu'ils se plaignent. Je pense que donne une opinion sur
condamner une France néolibérale.
Mais c'est pas se plaindre, ça. C'est utiliser sa position pour donner son opinion.
Dans un secteur hyper subventionné.
Non, mais on est quand même dans une démocratie libérale où, pour le coup, les opinions sont respectables et respectées.
Quand on parle à partir d'un secteur où on est massivement aidé par l'État, ça devrait quand même conduire à faire attention aux mots qu'on utilise.
Il n'y a pas beaucoup de secteurs aussi subventionnés que le secteur.
Non, mais qui a dit. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez la possibilité de le dire.
Oui, mais ça, c'était c'est
Voltaire.
Dans un contexte.
C'est Voltaire, oui.
Oui,
c'est
Voltaire. Mais c'est dans un contexte.
Il a pas dit comme ça, mais.
Oui, mais c'est ça l'idée.
Oui, mais c'est dans un contexte où si vous prenez le cinéma et si vous enlevez l'aide de l'État, il y a plus de films.
Bon, écoutez, merci.
Seuls les films qui rencontrent une adhésion des spectateurs.
On s'y attendait, mais on n'a pas le temps de réagir, mais le DUF a donc renoncé à implanter son usine de viennoiserie Bridor en Bretagne après 6 ans de procédure. 6 ans de procédure, des résistances de riverains, des résistances d'ONG, des résistances d'écologistes. Après, on veut de l'industrie. Bah, voilà. Bon, merci à vous tous d'avoir été là. Roland Gillet, Christian Saint-Etienne, Xavier Thimbault. On se retrouve demain à 9h.